RFI, grand reportage, Patrick Adam.
Bonjour, c'est le supplément du dimanche. On part en reportage, on prend le temps d'écouter. Et pour mieux connaître, mieux comprendre, juste après, le journaliste est en ligne avec nous. Première étape, le Pakistan. Pays patriarcal, pétri de traditions conservatrices. La place des femmes, pour beaucoup, doit être à la maison. Mais parfois, une figure émerge, au point de ravir les foules et même les institutions, bien contentes de se refaire une réputation. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de l'une d'elles, policière. On la suit jusque dans son commissariat. Détruire un navire, cela coûte très cher. Alors, comme pour les déchets, il apparaît plus facile à certains de les envoyer chez le voisin ou un pays lointain dont on ne saurait voir les conditions de travail. Par exemple, le Bangladesh. Un ouvrier témoigne. Les taches brunes que vous apercevez sur la mer, c'est du pétrole. Les taches blanches qui flottent, c'est de l'amiante. Le Bangladesh, ce sera en deuxième partie d'émission, juste après le Pakistan.
On ne dira plus aux femmes ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent faire, où elles peuvent aller. On ne leur dira plus rien. Plus jamais une fille qui va à l'école ne sera harcelée. Plus jamais les hommes ne regarderont d'un mauvais œil les femmes au marché. Plus jamais une femme assise dans une voiture ne sera confrontée à des hommes qui frappent à leur vitre pour les harceler.
C'est l'histoire d'une femme devenue une héroïne dans un pays d'hommes. Pays d'hommes parce que le Pakistan, dans le classement en matière d'égalité homme-femme, est à l'avant-dernière place mondiale. L'histoire mérite d'autant d'être contée que cette héroïne porte l'uniforme, elles ne sont pas si nombreuses, qu'elle a sauvé d'une mort probable une autre femme, victime de la vindicte masculine. Au Pakistan, seules 13% des fillettes vont au-delà du collège, alors quand une femme fait la différence et marque les esprits, elle est vite élevée au rang de modèle féministe. Les policières héroïnes au Pakistan, c'est un grand reportage de Sonia Ghezali.
Le 25 février dernier, une héroïne est née au Pakistan. Une femme, policière, qui a fait la une de l'actualité durant plusieurs jours. Sayeda Sherbano Nakui, la commissaire adjointe de la police de Lahore dans l'est du pays.
SP Sherbano Naqvi ne mulaqat ki hai ISPR ke mutabiq
SP Sayeda Sherbano Naqvi sahiba hamare saath hai.
Sayeda Sherbano Nakui a porté secours à une jeune femme dans un marché de Lahore. Sur les vidéos postées sur les réseaux sociaux par des passants, on voit la victime encerclée par une foule d'hommes hystériques. Ils l'accusent d'insulter le Coran car elle porte une longue robe colorée recouverte d'inscriptions calligraphiques arabes. La jeune femme a pu trouver refuge chez un commerçant. Assise au fond de la pièce, elle se couvre le visage de ses mains, l'air terrorisé, alors que des dizaines d'hommes menaçants l'entourent.
J'aurais dû l'abattre, j'ai envie de lui tirer dessus.
Elle a volontairement commis le blasphème.
La décapitation est la seule punition contre le blasphème envers le prophète.
Sherbano Nakui, dans son uniforme kaki, se dresse face à la foule.
Nous allons régler cela en appliquant la loi, d'accord ?
Inch'Allah !
Si Dieu le veut !
Inch'Allah !
Vous devez croire en la police.
Sur les images, on voit Sherbano Nakui escorter la jeune femme qui a été recouverte d'une longue robe noire, son visage dissimulé sous un épais tissu beige. Elle se fraye un chemin sous les cris de haine.
La décapitation est la seule punition contre le blasphème envers le prophète.
Les mots inscrits sur la tenue de la jeune femme prise pour cible n'ont pourtant rien de religieux, puisqu'il s'agit du mot « joli » en arabe qui est imprimé. La victime n'ignore pas qu'elle a échappé au pire. Plusieurs personnes ont été tuées au Pakistan au cours de ces dernières années par des foules haineuses après avoir été accusées de blasphème. Le sujet est d'une extrême sensibilité au Pakistan où le blasphème est passible de la peine de mort. Mais souvent, les accusations sont lancées de façon irresponsable et créent des foules hystériques qui lynchent à mort des personnes accusées de façon injuste la plupart du temps selon des organisations de défense des droits de l'homme. Elles sont nombreuses à dénoncer l'utilisation de la loi pour s'attaquer aux minorités religieuses ou pour régler des conflits personnels. En s'élevant contre cette foule haineuse, la commissaire adjointe de la police a rejeté la loi du plus fort et est devenue un symbole de la résistance féministe dans un pays très conservateur, religieux et patriarcal. Dans son bureau au commissariat du quartier où elle est en poste à Lahore, les journalistes affluent par dizaines chaque jour.
Hello, hi.
Chacun veut son interview avec celle qui s'est élevée contre ceux qui s'estiment tout puissants au Pakistan.
Le dénouement de cet événement a fait du bien au pays parce que nous avons vu des incidents malheureux, des incidents où des personnes ont perdu la vie à cause de foules hystériques. Il s'agit donc d'une lueur d'espoir et ce genre d'événement ou de cas devrait probablement, Inch'Allah, je l'espère, ne pas se reproduire à l'avenir. Mais si cela se produit, Dieu nous en préserve, ce qui s'est passé nous donnera l'espoir et le courage de nous opposer à la foule et de sauver d'autres vies. C'est pourquoi je pense que les gens célèbrent cet événement ou le considèrent comme l'un de ceux qui, dans notre histoire au moins, nous ont permis, en tant que profession, d'avoir le courage de nous opposer à des personnes qui exploitaient, harcelaient et profitaient des femmes en position de vulnérabilité.
À 26 ans, la policière a gravi les échelons et s'est illustrée avec brio dans ses fonctions. Elle dit être fière d'être une femme qui se réalise professionnellement et personnellement dans l'adversité.
On est pris aux tripes quand on pense à l'impuissance, à la vulnérabilité et à la faiblesse qu'elle a dû ressentir entourée de ces hommes qui scandaient des slogans et lui disaient de retirer ses vêtements pour porter autre chose. Cela vous met en colère et vous afflige en pensant que cela se passe dans le pays dans lequel vous vivez. Je suis si heureuse et si chanceuse d'avoir, en tant que femme, pris la défense d'une autre femme et de l'avoir protégée, parce que cela va servir d'exemple à toutes les femmes qui vivent de l'autre côté de la frontière, dans le monde entier, et leur montrer que nous devons nous serrer les coudes. Et la force première d'une femme vient d'une autre femme. Et il est très important de défendre ce qui est juste.
Sherbano Nakoui est consciente de l'émoi et de l'admiration qu'elle suscite après son acte de bravoure. Elle refuse cependant le titre de héros.
C'est un mot trop fort pour moi. Je pense que nous avons fait notre devoir. Nous le referons sans hésiter et nous continuerons à le faire jusqu'à la fin de nos jours. C'est pour cela que nous sommes là et c'est pour cela que nous portons l'uniforme. Je ne savais pas que tout cela se passait parce qu'après nous être assurés que la femme était saine et sauve et qu'elle serait transportée en toute sécurité à son domicile et qu'elle avait retrouvé son mari, nous sommes immédiatement passés à la mission suivante. Pour moi, ce n'était donc qu'un jour de travail comme les autres. Mais si nous devons le célébrer, nous devrions le faire, car c'est quelque chose de très positif. Notre pays ne s'était pas opposé depuis si longtemps à ceux qui nous harcèlent de manière flagrante et agressive dans les rues, qui nous disent quoi faire et ne pas faire, quoi porter et ne pas porter, comment vivre et comment ne pas vivre. Cette affaire est donc un coup de pied dans leur ventre.
It's a kick in their gut when it comes to women standing up for their rights.
La policière est aussi mise en avant par le chef de la police de Lahore. Fier de l'héroïne, Ousmane Anwar veut en faire un exemple.
Le plus important à cet égard est qu'il ne s'agit pas d'un événement unique. Elle a pris tellement d'initiatives et de mesures audacieuses au cours de ses 18 mois de service que son nom a été inscrit sur un mur d'honneur au bureau central de la police. Il s'agit de son 16e acte de ce type qui a été apprécié par nos services et pour lequel elle a été nominée pour la médaille honorifique Qaïd-e-Azam. Ce n'est donc pas que la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, comme l'a dit Louis Pasteur, c'est parce qu'elle est née pour cela. Et cet événement nous a donné l'occasion de montrer au monde entier que l'extrémisme qui existe dans la plupart des régions du monde aujourd'hui peut être combattu par une femme qui a ce courage et qui a cette force en elle. Et elle n'est pas un modèle que pour les services de police du Pakistan, que pour le monde musulman ou l'Asie du Sud, mais elle est un modèle pour le monde entier. Oui, je dirais qu'elle est un modèle pour le monde entier.
Ousmane Anwar organise d'ailleurs quelques jours plus tard une marche en soutien aux femmes dans le centre de Lahore. La police réalise des pancartes au slogan féministe qu'elle distribue aux participantes. On peut y lire « Plus jamais » ou encore « Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes ». Et puis, à chaque fois qu'une femme se lève, elle s'élève pour toutes les femmes. Près de 300 femmes et membres des forces de sécurité se rassemblent dans le centre de la ville le 4 mars. Une estrade a été installée. Le chef de la police parle le premier.
Le héros de la nation est Sherbano Nakhui.
Il appelle ensuite au micro Sherbano Nakhui.
On ne dira plus aux femmes ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent faire, où elles peuvent aller. On ne leur dira plus rien. Plus jamais une fille qui va à l'école ne sera harcelée. Plus jamais les hommes ne regarderont d'un mauvais œil les femmes au marché. Plus jamais une femme assise dans une voiture ne sera confrontée à des hommes qui frappent à leur vitre pour les harceler.
Dans la petite foule, les regards sont admiratifs. La commissaire adjointe de la police est consciente de l'exemple qu'elle représente et a choisi d'endosser son rôle avec conscience.
Il s'agit d'un message public adressé à tous ceux, acteurs ou parties prenantes, qui pensent pouvoir profiter de la vulnérabilité d'une femme et de la position qui lui est accordée dans la société, de la faire se sentir petite et de lui retirer ses droits.
Parmi les marcheuses, il y a des enseignantes à l'université comme Ouzma Cher, à la tête du département des études sur le genre d'une faculté à Lahore. Elle ne cache pas son admiration pour la jeune policière.
C'est important parce que je pense que cela donnera du courage aux masses, aux jeunes filles, en leur montrant qu'elles ont un rôle à jouer dans la prise de décision au sein de la société. Lorsque les femmes portent l'uniforme, elles ont plus d'impact sur le grand public. Les gens, en particulier les jeunes filles, ont l'impression d'être plus autonomes, d'occuper une certaine position, de pouvoir changer les choses, d'être partie prenante du changement. C'est la raison pour laquelle les femmes en uniforme sont un symbole d'autonomisation.
Pour l'enseignante, le Pakistan a besoin de plus de femmes à des postes à responsabilité pour faire changer les mentalités dans le pays, qui est l'un des pires en matière d'égalité entre les hommes et les femmes.
Les gens ne sont pas habitués à voir des femmes dans de tels rôles et dans des positions de pouvoir. Elle a fait son devoir. Ils considèrent donc que c'est une mesure courageuse, sans aucun doute, qu'elle a prise sur le champ et que c'était une sage décision à ce moment-là. Mais je pense que les gens ne sont pas habitués à voir des femmes à des postes de pouvoir. Il faut sensibiliser les jeunes garçons et les hommes parce que lorsque les femmes sont là, je pense qu'il s'agit simplement d'une relation de respect et de professionnalisme. Et je pense que plus de la moitié de la population de notre pays est composée de femmes, et lorsqu'elles occuperont des postes de décision, ce sera un grand pas en avant pour le Pakistan et pour le progrès.
Dans la foule, il y a aussi de nombreuses jeunes femmes. Inchal a 20 ans. Ses grands yeux soulignés au crayon noir, elle affiche un grand sourire lorsqu'elle évoque Sherbano Nakhui.
Elle nous donne beaucoup d'espoir. Chaque femme devrait défendre ses droits. Les filles comme nous, nous avions toujours très peur et elle nous a donné du courage. Elle est une grande source d'inspiration. Elle était la seule femme ce jour-là et elle a protégé et sauvé cette femme. Et nous sommes là pour la soutenir.
Lorsque l'héroïne passe près d'elle, une frénésie semble emporter la foule.
S'il vous plaît, juste un selfie. Juste un.
La policière se prête à l'exercice des photos, se montre sympathique, même si elle semble toujours sur le qui-vive. Cette mobilisation des femmes, ces échanges, l'ont-elles aussi transportée.
Nous allons y arriver et nous veillerons à ce qu'une société qui est notre société aille dans la bonne direction et se développe de manière très positive, où les femmes et les hommes se tiennent côte à côte et réalisent tout ce qu'ils veulent réaliser. La société dans laquelle nous vivons est à l'origine de certaines situations problématiques pour les femmes. Les femmes doivent contribuer au travail de la police, faute de quoi de nombreuses situations criminelles et enquêtes seront entravées.
En effet, si les femmes représentent 51% de la population, elles constituent pourtant moins de 3% des effectifs des forces de l'ordre au Pakistan. Nous nous rendons dans l'école de police à Lahore qui forme des centaines de femmes chaque année. De jeunes recrues jouent le rôle de manifestantes violentes qui lancent des pierres sur des policières qui ont formé un mur de protection avec leurs boucliers anti-émeutes. Plus loin, sur la pelouse, Le policier instructeur Yassine forme une quinzaine de jeunes policières munies de leurs armes à se déplacer en se hissant au sol.
Pour nous, les femmes ne sont en rien inférieures aux hommes. La formation que nous leur donnons est d'un niveau avancé, du combat jusqu'au tir, en passant par l'orientation dans l'espace. Après la formation, elles retournent dans leurs districts respectifs et accomplissent leurs devoirs.
Le recrutement des femmes dans la police est un défi. De nombreuses familles encouragent leurs filles à se marier jeunes et à ne pas s'exposer au monde extérieur. Ces jeunes femmes sont des exceptions. Aksa Shehzadi a une vingtaine d'années.
Dans ma famille, les femmes qui travaillent dans la police sont très mal vues. Mais depuis que je suis là, mes cousins et mes cousines ont tous postulé à la même formation.
Près d'elle, Munawara Amjad a été victime des mêmes préjugés.
Tout le monde a l'habitude de dire que ce n'est pas un métier honorable pour les femmes. Moi, j'étais très sportive à l'école et depuis que je suis ici, j'ai beaucoup plus confiance en moi.
Les recrues vont rejoindre le stand de tir. Elles rêvent toutes d'atteindre les échelons les plus élevés de la profession. Sherbano Nakui doit recevoir la médaille Kaïd et Azam, la plus haute distinction honorifique attribuée aux policiers. Elle est la deuxième policière de l'histoire du Pakistan à la recevoir. La première a été donnée à une autre policière, à Karachi, dans le sud du pays. Une autre héroïne de la police, son nom est Stella Sadiq. Elle s'est illustrée par son courage en octobre 2010, en arrêtant deux kamikazes devant un mausolée soufi. L'attaque a causé la mort de 10 personnes, blessant des dizaines d'autres, dont Stella Sadiq, qui garde toujours des séquelles 14 ans plus tard. Dans sa modeste maison, composée d'une petite cuisine et d'une pièce, elle se prépare chaque matin devant un miroir fixé au mur. Elle montre avec fierté les photos de la cérémonie au cours de laquelle elle a reçu sa médaille. Elle avait une vingtaine d'années à l'époque. Avant de partir travailler, elle prend des antidouleurs. Un geste rituel est nécessaire.
C'est un analgésique. Depuis l'explosion, j'ai des éclats de bombe dans le pied et celui que j'ai dans la cheville me cause beaucoup de douleur. C'est la médaille la plus prestigieuse de la police et je suis très fière d'être la première femme policière à l'avoir obtenue.
Stella Sadiq n'a pas eu de promotion à la suite de son geste héroïque. Elle a juste été transférée à un poste sédentaire en raison de ses problèmes de santé liés à ses blessures. Être policière était un rêve pour cette femme issue d'une famille chrétienne très modeste.
J'ai toujours eu cette obsession de l'uniforme. J'ai toujours dit haut et fort ce que je pense et j'ai toujours été audacieuse. Je savais que travailler dans la police m'irait comme un gant. Mais quand j'ai passé le concours, je l'ai fait en cachette parce que les femmes ne travaillent pas dans ma famille. J'ai réussi les examens et on m'a donné un uniforme et des chaussures. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai annoncé ça à mes proches, mon frère s'est mis en colère et il m'a battue avec une chaussure. Le lendemain, il m'a enfermée à la maison.
Pourtant, elle ira travailler chaque jour, malgré la violence de son frère qui refusera de lui parler pendant plusieurs années. La policière nous emmène ce jour-là sur le site de l'attaque. Le temple d'Abdullah Shahrazi attire chaque jour des milliers de pèlerins. Chaque visiteur doit passer sous des portiques de sécurité. Un garde palpe leurs vêtements.
C'est là que l'explosion s'est produite.
C'est ici que Stella Sadiq a démarré sa carrière dans la police. Elle avait une vingtaine d'années. Rien n'a changé sur place. Le mausolée a été restauré. Les pèlerins sont toujours aussi nombreux.
C'est ici que je contrôlais les pèlerins. La foule arrivait par là. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. J'ai arrêté une personne qui refusait de se faire fouiller. J'ai eu des soupçons et je lui ai donné un coup de pied. Il est tombé quelques mètres plus loin et s'est fait exploser. J'ai couru en pensant qu'il y avait un deuxième kamikaze et en effet une deuxième personne s'est fait exploser. C'était le chaos, il y avait beaucoup de blessés, des personnes ont été tuées, il y avait de la chair et du sang partout.
Si elle a failli mourir, Stella ne regrette pas son choix. La police est une vocation et elle sait combien il est important que des femmes soient présentes dans la profession, dans la société patriarcale et conservatrice pakistanaise.
La police est un métier très difficile, surtout pour les femmes, parce qu'il est difficile de gérer sa maison et d'accomplir ce devoir policier qui est dur. Mais depuis l'attaque, je n'ai pas peur. J'ai été plus inspirée et je suis devenue plus courageuse. Aujourd'hui, je suis plus courageuse que je l'étais avant.
Stella Sadik, Sherbano Naqvi, les deux héroïnes sont unies dans un même combat pour protéger les femmes et promouvoir leur émancipation. Chacune espère que d'autres femmes les suivront dans la revendication et la conquête de leurs droits fondamentaux, dont celui de pouvoir vivre ses rêves en étant en sécurité.
Les policières héroïnes au Pakistan. Bonjour Sonia Ghezali, correspondante de RFI.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
On se rend compte à l'écoute du reportage de l'effervescence autour de Sherbano Naqvi. Lorsque vous la rencontrez, il y a aussi cette marche pour sensibiliser aux droits des femmes, organisée par le directeur de la police de la province du Punjab. Alors vous qui étiez sur place, quelle est la part de la spontanéité et de la mise en scène par les services de police ?
Alors, c'était très particulier, en effet, puisque quand on arrive le jour de l'interview dans le commissariat où Sherbano Naqvi travaille en tant que commissaire adjointe, il y a des journalistes partout, des animateurs radio ou de podcasts, des équipes de télévision. Et Sherbano n'est pas là, elle est à ce moment-là sur un plateau de télévision en train de donner une interview. On l'attend plus d'une heure et quand elle arrive, elle est encerclée par tous ces journalistes qui l'attendent, certains depuis plusieurs heures. Et elle va donner de son temps à tout le monde, du youtubeur qui n'a que quelques centaines d'abonnés, aux journalistes de chaînes de télévision nationales et internationales. Et bien sûr, ça nous frappe, cette modestie. Alors elle est un peu embêtée vis-à-vis de nous parce qu'elle nous a fait attendre longtemps et elle nous propose de la suivre dans une réunion avec le directeur de la police du Punjab. Et là, c'est intéressant ce qu'on voit puisque ce haut gradé de la police est très accueillant, il est très accommodant, très bavard aussi. Et il est surtout très investi dans cette popularité soudaine de Sherbano. Et d'ailleurs, on se rend compte avec mon confrère pakistanais que la réunion a pour objet d'embaucher des réalisateurs pour réaliser un documentaire sur Sherbano Naqvi. La police est très très fière de son action, de son travail au quotidien et veut immortaliser cela dans un film, nous dit-il.
Alors vous nous direz, hein, Sonia, au cours de cet entretien, si Sherbano Naqvi reste une policière ou elle n'est devenue finalement qu'une star médiatique. Qui est à l'origine de la marche des femmes que vous suivez dans le reportage ?
Eh bien, le lendemain matin, on retourne au commissariat et là, on voit des policiers charger une fourgonnette de pancartes de slogans féministes. Et ce sont ces pancartes qui seront ensuite brandies par les militantes féministes et les policières qui participent à la marche en soutien aux femmes, organisée par la police, en fait, pour sensibiliser la population aux droits des femmes. Alors c'est particulier, c'est étonnant, mais la police fait assez régulièrement ce genre d'initiative après des incidents tels des cas de harcèlement, de crimes conjugaux ou ce qu'on appelle encore des crimes d'honneur. La police se donne en fait aussi le rôle de sensibiliser la population.
Ouais, donc il y a un vrai travail d'investissement de la part de la police. Et justement, après avoir écouté votre reportage, Sonia, on se demande si ces héroïnes policières font bouger réellement les choses. Est-ce qu'elles influent sur les mentalités ? Finalement, quel est leur impact réel dans cette société que l'on sait très conservatrice et patriarcale ?
Alors l'impact immédiat, c'est cet espoir qu'elle suscite. Le Pakistan est un pays de paradoxe, on peut le dire. C'est le premier pays musulman, on le rappelle, à avoir eu une femme premier ministre, à savoir Benazir Bhutto. Et finalement, la société, elle, reste très traditionnelle. Vous avez évoqué tout à l'heure ce chiffre très bas sur l'éducation des filles. Et de nombreuses familles, surtout des classes moyennes et supérieures, mettent un point d'honneur à ce que leurs filles soient diplômées, surtout de médecine. Et c'est même un critère important pour trouver un mari, par exemple, puisque la plupart des unions ici sont des mariages arrangés.
Donc on entend bien la sincérité du propos, mais on comprend qu'avec d'autres policières que vous suivez dans le reportage, là en revanche, la situation n'est pas aussi facile.
Oui, puisque la réalité rattrape toujours au Pakistan. Stella Sadik à Karachi, elle n'a pas vu sa vie changer. Elle travaille maintenant dans un centre de la police pour les femmes et les enfants. Elle n'est donc plus sur le terrain, mais dans un bureau. Elle n'a plus de visibilité 14 ans plus tard. Son geste héroïque a été même oublié, on peut le dire. Et elle n'a qu'un désir qu'elle ne voulait pas dire au micro par peur de représailles. C'est quitter le Pakistan, car la vie est difficile pour les femmes, pour les minorités, notamment la minorité chrétienne dont elle fait partie. Pour les personnes qui gagnent peu, comme c'est son cas, elle gagne environ 170 euros par mois. Donc on se rend compte que le chemin est long pour que les mentalités évoluent vraiment. Et ces femmes sont vraiment des précurseurs.
Oui, avec une réalité, vous venez de nous le faire comprendre, assez nuancée. Merci Sonia Ghezali.
Merci à vous.
Sur RFI, grand reportage, le supplément du dimanche se poursuit. Au Bangladesh, on se retrouve dans 20 minutes pour en parler.
Au Bangladesh, nous croulons déjà sous le poids des maladies contagieuses comme la tuberculose, la typhoïde, les diarrhées ainsi que la dengue. Et à cela se rajoutent les problèmes de diabète et d'hypertension. Donc les docteurs n'ont pas le temps de s'occuper de ce nouveau problème. Pourtant, des dizaines de milliers de travailleurs sont exposés depuis des années à l'amiante et si on ne s'en occupe pas, cela peut devenir sérieux. C'est comme une bombe à retardement.
Ce sont des pétroliers, des cargos ou autres porte-containers. Pendant des années, ces énormes navires parcourent les océans du globe pour nous apporter carburant et autres minerais essentiels à notre développement. Mais que deviennent ces navires à la fin de leur vie ? Environ un tiers sont envoyés au Bangladesh pour être démantelés sur les plages, dans des conditions dangereuses pour les ouvriers et polluantes pour l'environnement. Avec, à l'intérieur, des tonnes d'amiante particulièrement toxiques. Le danger est sanitaire et environnemental. Les chantiers bangladais essaient de se moderniser, mais l'amiante, elle, demeure. Bangladesh, dans les chantiers de démolition des bateaux, l'amiante tue à petit feu. C'est un grand reportage de Sébastien Farsi.
Nous avançons sur le ponton de Kumida, qui est à côté de Chittagong, au sud du Bangladesh. Et face à nous se trouvent deux énormes épaves de bateaux qui sont en train d'être démantelées à même la plage. L'une des épaves est d'ailleurs plus qu'une carcasse rouillée. La moitié de la coque est déjà partie et puis il y a encore quelques grues. On se demande si ce qu'ils vont en faire. Et elle est là ensablée.
Et avec nous se trouve un travailleur de ces chantiers. Nous l'appellerons Ahmed pour protéger son identité. Ça fait des années qu'il travaille sur ces chantiers de démolition des bateaux. Et aujourd'hui, il a décidé de parler pour expliquer les dangers de ce métier.
Qu'est-ce qu'on extrait de ces structures, de ces épaves de bateaux ?
Tout ce qu'on trouve sur un bateau peut être récupéré, recyclé. L'acier d'abord, puis les câbles, la laine de verre, les meubles et l'amiante qui est revendue pour faire des meubles ou des petits fours. Et ce qui n'est pas revendu est souvent jeté à la mer, car nous n'avons pas de décharge adéquate au Bangladesh. Par exemple, l'amiante qui se trouve dans les tuyaux pour l'isolation ou dans les chauffe-eau est difficile à récupérer, donc elle est rejetée en mer.
Pour enlever toute cette amiante des cabines, justement, c'est quand même très dangereux, toute la poussière d'amiante qui peut voler pendant le procédé. Comment est-ce que c'est fait ? Est-ce qu'il y a une protection pour éviter que ces poussières soient inhalées par les travailleurs ?
Moi, je travaille au découpage de la coque, d'autres sur les parties de cabine. Mais nous n'avons pas d'équipement de protection adéquat. Aujourd'hui, on nous donne un casque, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous avons aussi un masque en tissu, mais celui-ci ne filtre pas les particules fines. Certains ne le portent même pas, car il fait trop chaud ou ils n'aiment pas le porter. Et ils mettent juste un tissu en coton autour de la bouche.
Donc il vient nous présenter une sorte de dépliant. Qui a pris ces photos ? Vous avez pris ces photos ?
C'est moi.
Comment vous avez fait pour les prendre ?
Je les ai prises en allant travailler tous les jours avec mon smartphone. C'était en 2020.
Oui, on voit les travailleurs qui sont en train de découper toutes ces parties qui sont dans le moteur, dans les cabines. Et puis il n'y a pas de masque, ils n'ont pas de masque, ils sont à peine... Ce sont juste des chaussures et une casquette.
Ici, vous avez toute l'amiante qui recouvrait les tuyaux, qui s'est effritée et se répand sur le sol. Elle se répand sur la mer, comme vous voyez. Le noir, c'est le carburant qui flotte, et le blanc, c'est l'amiante.
Le Bangladesh accueille avec l'Inde la plus grande industrie de démantèlement des vieux navires marchands du monde. Ces pétroliers et cargos transportent pendant des dizaines d'années notre charbon, nos céréales ou nos voitures. Et à la fin de leur vie, un quart de tous ces bateaux sont envoyés ici au Bangladesh pour être démolis sur les longues plages du sud du pays. Une armée de travailleurs brûle alors l'acier, découpe les tuyaux, démonte les systèmes électriques et abattent les murs pour récupérer tout ce qui peut l'être, souvent au risque de leur vie, car beaucoup de ces navires comptent encore ce produit très toxique à bord, de l'amiante. Ahmed en témoigne.
J'ai déjà découpé de l'amiante de la structure du bateau. Parfois, quand mes mains étaient pleines d'huile, j'ai même utilisé de la poussière d'amiante pour enlever l'huile et me laver les mains. Ensuite, j'ai mangé avec mes mains. À l'époque, je n'avais aucune idée des dangers de l'amiante. Ce n'est qu'à partir de 2008 que les ONG ont commencé à nous en parler et cela a doucement commencé à changer. Aujourd'hui, sur les chantiers, il y a des réunions pour nous expliquer les différents dangers. Mais cela ne change pas grand-chose, car on n'est pas assez protégé.
Vous, ça fait des dizaines d'années que vous travaillez sur ces bateaux. Est-ce que vous avez déjà des problèmes de santé ?
Oui, je suis une victime de l'amiante. Des médecins ont mené des études qui ont montré que mes poumons avaient perdu 20% de leur capacité. J'ai donc de gros problèmes à respirer. J'ai du mal à monter les escaliers, par exemple. Je ne peux pas marcher rapidement. Et comme je manque d'oxygène, mon corps est mal ventilé. Et cela peut affecter d'autres organes.
Ahmed est loin d'être la seule victime de l'amiante de ces chantiers. Des centaines de milliers d'ouvriers ont travaillé sur ces navires ces dernières années dans des conditions similaires. Et les conséquences sanitaires commencent à se faire sentir. En 2016, un médecin spécialisé a mené une étude et sur les 100 ouvriers vétérans qu'il a étudiés, un tiers souffrait d'amiantose, une maladie des tissus des poumons causée par l'amiante. Depuis, la communauté médicale locale essaye d'enquêter sur ce problème. Le docteur Rajat Bishwas, professeur assistant à l'hôpital Mao Shishu de Chittagong, a récemment suivi 25 ouvriers qui ont travaillé sur ces bateaux depuis au moins 15 ans.
En faisant une simple radio de leurs poumons, nous ne voyons pas grand-chose. Mais avec une radio de haute résolution, nous avons découvert que les deux tiers des patients avaient des problèmes pulmonaires, comme des fibroses ou des opacités pulmonaires. L'amiante dévaste les poumons et réduit leur taille. Cela réduit donc l'oxygénation du corps et du cœur et peut donc entraîner des crises cardiaques. Sur le long terme, l'amiante peut entraîner des cancers car le système immunitaire se bat contre ce corps étranger. Ces travailleurs ignorent souvent ces problèmes car ils n'y pensent pas, mais aussi car ils n'ont pas les moyens de faire ces études. Cela coûte 130 euros à réaliser, ce qui est plus élevé que leur salaire mensuel.
Et pourquoi est-ce que les autorités ou les médecins en général ne s'intéressent pas un peu plus à l'impact de l'amiante sur la santé de ces travailleurs ?
Au Bangladesh, nous croulons déjà sous le poids des maladies contagieuses comme la tuberculose, la typhoïde, les diarrhées ainsi que la dengue. Et à cela se rajoutent les problèmes de diabète et d'hypertension. Donc les docteurs n'ont pas le temps de s'occuper de ce nouveau problème. Pourtant, des dizaines de milliers de travailleurs sont exposés depuis des années à l'amiante et si on ne s'en occupe pas, cela peut devenir sérieux. C'est comme une bombe à retardement.
Ce secteur a depuis longtemps opéré de manière opaque au Bangladesh. Le démantèlement des bateaux est un travail dangereux et polluant. Pour réduire les coûts, les épaves sont ensablées et les pièces sont souvent traînées à même la plage. Les huiles et carburants peuvent ainsi facilement contaminer l'océan. Les accidents sont aussi nombreux et coûtent la vie à plusieurs travailleurs chaque année. Mais faute de contrat, les blessés sont peu indemnisés, les familles des défunts rapidement oubliées. Ce secteur est toutefois protégé car stratégique. Ces épaves représentent la première source d'approvisionnement en acier du Bangladesh. Le problème, c'est que beaucoup de produits toxiques arrivent aussi avec ces bateaux comme l'amiante. Cette fibre naturelle a longtemps été utilisée pour ses qualités d'isolation, mais trop toxique, elle a finalement été restreinte sur tous les bateaux depuis 2001 et interdite depuis 2011. Les navires qui arrivent aujourd'hui ont toutefois plus de 20 ans et l'essentiel comprennent donc encore de l'amiante à bord. Ces dernières années, le Bangladesh a ainsi reçu environ 2000 tonnes d'amiante par an. Alors, que devient cette fibre? Les autorités ne le disent pas, mais à la sortie des chantiers, nous avons trouvé des ateliers où des ouvriers recyclent ce produit toxique.
Ce sont des planches d'amiante. Elles viennent des chantiers de bateaux. Nous les découpons selon un modèle prédéfini pour faire des fours. Nous mettons des clous, nous les peignons et ensuite nous les vendons.
Et pourquoi est-ce que vous utilisez ce matériau pour faire des fours ?
L'amiante retient très bien la chaleur et c'est très résistant. Cela permet d'utiliser moins de bois pour faire chauffer la nourriture. C'est pour cela que les gens adorent ces fours. Avant, les gens utilisaient des fours en ciment, mais ils étaient deux fois plus chers et ils se brisaient plus facilement.
Combien vous en faites ? Comme ça, là, il y en a, on en voit des dizaines et des dizaines qui sont empilées les uns sur les autres. Combien vous en faites en une journée ?
À nous deux, on peut faire entre 70 et 80 fours par jour.
Et c'est facile de trouver de l'amiante brute ces jours-ci ?
Oui, nous les trouvons dans les magasins de meubles qui les achètent directement au chantier et ils en ont régulièrement. Nous remplissons un camion entier et cela nous permet d'en avoir assez pour deux mois.
Je vois que vous n'avez pas de masque, vous n'utilisez pas de masque pour protéger toute cette poussière qu'on voit sur le sol.
Nous utilisons ce tissu en coton quand nous découpons les planches, car c'est à ce moment qu'il y a le plus de poussière. Mais quand nous ajustons et clouons les pièces, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas toujours facile, mais je n'ai pas trop le choix, je dois travailler.
Et on est sous un petit abri en bambou et il y a des toiles d'araignées partout sur le plafond. Et les toiles elles-mêmes sont toutes blanches. De poussière d'amiante. C'est assez effrayant. Et là, juste devant nous, là, juste à l'extérieur de l'atelier, il y a toute une montagne de gravats, de chutes, donc de cette amiante. Qu'est-ce que vous en faites ensuite ?
On ne peut plus rien faire de ces morceaux. Il y a parfois des gens qui viennent en récupérer. Ils les utilisent par exemple pour renforcer le fond de leurs étangs.
L'un des responsables de l'association des chantiers de démolition a fait analyser le matériau utilisé par ces menuisiers et il nous assure que cela n'est pas de l'amiante. Nous ne pouvons toutefois pas confirmer ces résultats de manière indépendante. Petit à petit, toutefois, certains chantiers se modernisent. Sur la quarantaine qui opère au Bangladesh, 4 respectent maintenant les standards de la Convention de Hong Kong qui impose des règles plus strictes en termes de respect des travailleurs et du traitement des matériaux toxiques. Et nous allons maintenant visiter l'un de ces chantiers modernes qui appartient au grand groupe PHP. Nous enfilons un casque et des chaussures de sécurité et nous entrons accompagnés de Sehal Anwar, l'un des responsables du service qualité et sécurité de la société.
Donc là, nous avons un énorme paquebot qui est en train d'être démantelé.
Ceci est un bateau de 10 000 tonnes métriques. Nous entrons ici dans la zone principale de découpe.
Là, il y a un homme qui est sur le quai en train de découper une énorme pièce d'acier. Il a une énorme torche pour enlever l'acier, pour défaire l'acier. Voilà. Où est-ce que c'était ça ?
Cette pièce était à l'arrière du bateau et cette autre était près des cabines. Vous voyez que les coupeurs ont des masques spécialisés pour les protéger des gaz.
Ils ont des masques, le coupeur il a un masque particulier, il avait une visière qu'il a rabaissée juste quand on est arrivé. Voilà, les gens portent des masques surtout quand on passe, mais bon.
Nous enlevons d'abord la peinture avant de découper les pièces pour réduire les fumées toxiques qui sont émises.
On entre dans le cœur du vaisseau. Qu'est-ce qu'il transportait ce bateau ?
Du cargo et des minerais.
Et quel âge il avait ce bateau ?
Il a été construit en 1996. Vous voyez les lignes de drainage ici ? Nous récupérons toutes les eaux et nous les traitons dans une usine de traitement. Et nous la relâchons dans l'océan uniquement quand elle est de bonne qualité. Là-bas, vous pouvez aussi voir la barrière flottante avec des bouées. Les déchets flottent, donc cela évite qu'ils sortent du périmètre. Aussi, aucune des pièces du bateau ne touche l'eau. Nous les levons ou les roulons dans le bateau. Ceci évite toute pollution des fonds marins.
L'eau est pleine d'huile. Il y a une grande quantité d'huile sur cette eau. En
fait, vous savez.
Hier, une fuite a eu lieu depuis le bateau du chantier voisin. Nous essayons de contrôler cette fuite avec l'aide de bouées, mais ce n'est pas possible de réussir à 100%. Quand il y en a autant, une partie rentre.
Ça veut bien dire que vous ne pouvez pas empêcher l'huile de partir.
Depuis notre chantier, nous sommes sûrs que cela ne peut pas arriver, car avant de commencer le démantèlement, nous transférons toutes les huiles et le carburant vers un plus petit bateau et nous nettoyons ensuite les réservoirs du bateau pour enlever tout ce qui reste.
Donc on rentre dans le bâtiment qui est dédié à l'amiante, au traitement de l'amiante.
Quand le bateau arrive sur notre chantier, nous prenons des échantillons de différentes parties que nous envoyons à un laboratoire en Chine. S'il y a de l'amiante, nous restreignons l'accès de la zone. Nous enlevons les tuyaux qui contiennent de l'amiante et nous les apportons dans cette chambre de traitement de l'amiante.
Comment est-ce que vous séparez des longues pièces comme ça de tuyaux qui ont de l'amiante ?
Il y a deux types d'amiante, friable et non friable. Si l'amiante est friable, nous installons une chambre sous vide sur le bateau. Nous l'avons déjà fait en 2019. Mais quand nous le pouvons, nous transportons l'amiante dans cette chambre. Vous voyez que toute la pièce est étanche, donc nous pouvons le nettoyer après l'utilisation. Et l'eau est récoltée dans un réservoir séparé pour ne pas polluer la mer.
Quelle est la dernière fois que vous avez utilisé cette chambre ?
Il y a un mois, car dans le bateau précédent, il y avait de l'amiante.
On suffoque à l'intérieur.
Oui, car cette pièce est complètement hermétique. Nous devons maintenir la pièce sous pression pour ne pas que l'air y entre ou en sorte.
Ce chantier est toutefois exceptionnel et les procédures de recyclage qu'il utilise ainsi que tout ce processus de désamiantage sont encore très récents et rares au Bangladesh. L'essentiel des bateaux continue donc à être démantelé de manière plus artisanale et polluante. Mais cela pourrait changer car le gouvernement vient de ratifier la Convention internationale de Hong Kong encadrée par l'ONU et qui impose à ces chantiers des procédures plus respectueuses de l'environnement et plus sûres pour les ouvriers. Cette convention entrera en vigueur dans tout le pays en juin 2025. Et cela devrait forcer beaucoup de chantiers de démolition à moderniser leur processus afin de limiter la pollution causée par les épaves que le monde entier envoie dans ce pays.
Sébastien Farsi, vous signez ce reportage au Bangladesh sur les chantiers de démolition des navires. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Avec ce reportage, on est donc sur les plages au milieu des chantiers. Est-ce que pour vous, il a été difficile d'y accéder ?
Oui, ça a été très difficile. En fait, même tous les chantiers que j'ai approchés pour essayer de rentrer n'ont pas donné suite à mes demandes. Et c'est juste avant de prendre l'avion que ce chantier un petit peu exemplaire a accepté d'ouvrir ses portes pour nous montrer la modernisation de ces chantiers, nous montrer le beau visage.
Alors Sébastien, on l'entend dans le reportage, des menuisiers fabriquaient des meubles à partir d'amiante récupérée sur les épaves. Vous-même, comment est-ce que vous avez remonté la piste de ces ateliers ?
C'est un travailleur vétéran de ces chantiers qui nous a orientés vers ces ateliers. Avec lui, on a d'abord été sur les avenues qui bordent les chantiers, juste à la sortie de ces chantiers. On a trouvé d'abord des tas de planches grises d'une fibre friable qui étaient entreposées à l'air libre. Cette fibre s'envolait vers les habitations, c'était déjà assez inquiétant. Puis on est allé vers un atelier qu'on a trouvé dans une ruelle. Et c'est là qu'on a commencé à voir cet atelier à l'air libre où ces menuisiers fabriquaient des petits fours avec de la fibre blanche qui flottait partout et que eux décrivaient comme de l'amiante.
Et pourtant, les jeunes travailleurs qui témoignent dans votre reportage semblent habitués à ces conditions de travail, en tout cas à les supporter.
Oui, tout à fait. C'est assez étonnant, car moi, je suis resté sur place moins d'une heure à leur parler. J'étais équipé d'un masque semi-professionnel et en sortant, j'ai senti ma gorge brûler, mes poumons se contracter. Ça a duré pendant une vingtaine de minutes. C'était vraiment assez effrayant. J'ai vraiment pu ressentir l'effet que ça peut avoir sur le long terme. Alors, un propriétaire de chantier à qui j'ai montré les photos de ces planches de fibres, de ces ateliers, me soutient que ce n'est pas de l'amiante qui est utilisé, même si, les menuisiers disent le contraire et disent récupérer, ces planches des chantiers. Mais ce propriétaire ne me dit pas non plus ce que c'est que cette fibre. Il n'explique pas non plus où vont les milliers de tonnes d'amiante qui sont extraits des épaves ces 10 dernières années, ceci alors que l'essentiel de tous ces chantiers n'ont pas les moyens de traiter cette amiante correctement.
Et toute cette amiante, Sébastien, elle arrive très souvent au Bangladesh de manière totalement illégale.
Oui, selon la convention de Bâle qui gère et régule le transport des déchets toxiques, les pays de l'Union européenne ont l'interdiction d'envoyer de tels déchets comme l'amiante en dehors des pays de l'OCDE et donc de les envoyer dans des pays pauvres comme le Bangladesh, car ceux-ci n'ont pas les capacités de traiter ces produits. Mais voilà, les armateurs détournent ce système en revendant leurs bateaux en fin de vie à des entreprises douteuses qui sont situées dans les Caraïbes ou au Liberia et qui ont des législations plus laxistes. Et ces compagnies intermédiaires, en quelque sorte, peuvent ensuite envoyer ces navires au Bangladesh pour être démantelés. C'est ainsi que vous avez des bateaux utilisés pendant des années par des entreprises françaises ou allemandes qui ont été démolis au Bangladesh en 2022 encore. Le navire français en question, que j'ai retrouvé sur une liste, datait de 1994 et il comprenait donc très certainement beaucoup d'amiante à son bord.
Et ce qui renvoie notamment, Sébastien, à cette phrase de l'un des ouvriers que vous rencontrez dans le reportage, qui vous dit « Regardez la mer, ce qui est noir, c'est le pétrole, ce qui est blanc, c'est l'amiante ». Et de fait, vous l'avez évoqué, cela pose la question de la responsabilité des pays développés.
Oui, tout à fait. D'un côté, ce secteur économique donne du travail à des dizaines de milliers d'ouvriers, fournit au Bangladesh d'énormes quantités d'acier et autres produits recyclables. Donc bien sûr, les propriétaires de chantiers disent « c'est bénéfique, nous recyclons ces bateaux ». Mais oui, mais à quel coût environnemental et humain est-ce que cela est fait? Et surtout, est-ce que les pays riches ont le droit moral de renvoyer au Bangladesh leurs épaves toxiques? Ou devraient-ils, ces pays, s'occuper eux-mêmes de les démolir dans de bonnes conditions? Et c'est vraiment là une des questions principales très importantes qui se posent quand on voit les dommages qui sont causés par ces chantiers de démolition de navires au Bangladesh.
Merci Sébastien Farcy pour ce grand reportage.
Merci Patrick.
Le supplément du dimanche se referme. Y ont participé Ludivine Amado, David Brockway, Guillaume Buffet. Prochaine diffusion d'un grand reportage sur l'antenne. Demain, 19h40, temps universel, Nathanaël Vitran nous racontera l'Ukraine, plus précisément l'état de son économie. Dans un instant, c'est l'heure du journal.